6h03, vendredi 14 juin. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Alors, ce matin, faible pluie par endroit. Il y a des averses qui sont prévues, même il y a un risque d'orage, mais très tôt. Les vents sont modérés, le maximum prévu, seulement 17 degrés pour aujourd'hui. En soirée, ça demeure couvert. Encore là, faible risque d'averses, mais la pluie va vraiment commencer durant la nuit, avec un minimum de 14, donc pour la nuit de vendredi à samedi. Et pour la journée de samedi, on prévoit de la pluie, quand même, une vingtaine de millimètres encore, des rafales de vent, 60 km/h, et le maximum prévu, 19 degrés, donc c'est un samedi assez maussade. Alors que dimanche, on a un changement par rapport à ce qu'on prévoyait depuis quelques jours. Ce sera finalement, en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est ça, du soleil, maximum 24. Et le début de semaine, ça s'annonce très beau aussi, lundi, mardi, mercredi, les températures entre 25 et 27 degrés et du temps ensoleillé. Ce matin, je vais commencer par le dossier de Louis Robert, l'agronome qui avait été congédié par le ministère de l'Agriculture. Hier, rapport accablant, je dirais rarement vu, de la protectrice du citoyen. En un mot, Louis Robert a été trahi par son employeur, c'est-à-dire le MAPAC. On résume les faits. M. Robert constate l'ingérence du privé au sein des organismes qui sont supposés défendre l'intérêt public dans toute la question des pesticides. Alors lui, là, c'est un sonneur d'alerte. Puis il respecte les règles des procédures. Il passe par les mécanismes du ministère. Puis il dit quelque chose qui ne marche pas. La recherche scientifique est contaminée. Les décisions qui se prennent sont contaminées. Alors, il lève le drapeau d'abord au sein de son ministère. La personne à qui il s'adresse le trahit, se retourne de bord et avise le sous-ministre qui est collé sur l'entreprise privée, sur les vendeurs de pesticides. Et là, il se fait congédier. Ce que nous dit la protectrice très clairement, c'est ça qui n'a aucun sens, c'est que celle qui l'a trahi a obtenu une promotion. Il est devenu sous-ministre. Et là, hier, on était là. Ah, regardez, il y a une tête qui roule. Le sous-ministre Dion a démissionné, ou on l'a démissionné. Ça va à retraite dans quelques mois. C'est une farce totale. Et le ministre André Lamontagne, hier, a refusé de s'excuser. Il a juste dit on lui offre de revenir. D'abord, ça ne se règle pas de même. Robert a fait des griefs. C'est quoi les conditions de retour? Puis qu'est-ce qui se passe pour la période où il a perdu son emploi? Et je vais vous ramener dans le temps, quand j'ai fait une entrevue avec le ministre Lamontagne, justement parce qu'on disait, et c'est ça qui était assez vicieux de la part du gouvernement, vous savez, on a autre chose contre Louis Robert. Écoutez bien ça.
Ben, j'ai pu, d'intuition, à la lumière des informations qu'ils m'ont données, j'ai pu avoir cette pensée-là.
Attendez, là. Une intuition?
Oui.
Donc, vous ne savez pas s'il y a autre chose. Vous avez l'intuition qu'il y a peut-être autre chose.
Monsieur Arcan, je ne veux pas faire cassette ce matin, vraiment, mais je ne peux pas vous donner d'informations sur le dossier de Monsieur Robert.
C'est profondément ridicule. Une intuition. T'sais, c'est vicieux, là. Il laisse sous-entendre qu'il y a le feeling qu'il y a probablement, à partir de quoi on ne sait pas trop, du spin fait par les fonctionnaires autour de lui. Puis là, il ne s'excuse pas. Il reste en poste. Je vous rappelle qu'il avait dit qu'il avait pris lui-même la décision de le congédier. C'est comment le ministre va congédier. Il y a, je pense, 7 niveaux décisionnels entre Louis Robert et le ministre. Tout ça est une opération méprisante, avec un objectif, évidemment au ministère, c'est de faire taire les sonneurs d'alerte. Et M. Robert est allé dans les médias après. Alors, tout ça pour vous dire, donc, que c'est grave et que si le gouvernement caquiste est sérieux, là, ça ne peut pas rester comme ça. Là. C'est pas juste de réintégrer Louis Robert. Là. Quelles sont les garanties qu'au ministère de la Santé, au ministère de l'Éducation, au ministère de la Sécurité publique, un sonneur d'alerte ne se fera pas exécuter par la machine. Parce que c'est ça qui est arrivé. Hey, tu vas voir la personne, elle te promet un rapport, tu ne le vois pas, elle se tourne vers le sous-ministre qui, lui, en profite pour étouffer l'affaire et congédier le fonctionnaire en espérant que ça passe inaperçu. Alors voilà pour ce premier dossier. L'autre nouvelle, c'est la décision de Québec, enfin, dirons-nous, on est en retard sur les autres provinces, qui donne plus de pouvoir aux pharmaciens, notamment des pouvoirs de prescription et aussi des pouvoirs pour administrer des vaccins. Et donc, c'est quand même une bonne nouvelle pour les gens. Le pharmacien est plus accessible, c'est moins compliqué. Et là, vous avez une série de mesures qui ont été annoncées. Donc, en situation d'urgence, on va pouvoir prescrire certains médicaments. Puis là, il y a, évidemment, avec le Collège des médecins, il y a une procédure qui a été établie. Ils auront le pouvoir de le faire pour tous les produits en vente libre en toutes circonstances. Et là, vous me direz, pourquoi prescrire des médicaments en vente libre? Ils sont en vente libre. Bien, parce que c'est remboursable quand il y a une prescription par l'assurance. Alors, là, la question fondamentale, une fois qu'on a dit ça, c'est parfait. Qui va payer? Et je pense que cette question-là, elle est majeure. Parce que vous allez à la pharmacie, puis c'est sûr que le pharmacien a un honoraire, là. Mettons entre 15 et 20 $ là, pour ce qui est de l'assurance privée, là. Alors, tu dis, parfait. Est-ce que c'est moi qui va payer? Est-ce que mon assureur va payer? Est-ce que je vais payer la co-assurance? Parce que si je vais dans une clinique médicale et que le médecin me prescrit, par exemple, ce médicament, je ne paye pas. C'est la RAMQ qui paye. Et cette notion-là est un peu floue. Est-ce que mes assureurs privés vont couvrir? Est-ce que la RAMQ va couvrir le frais totalement, partiellement? Est-ce qu'on va avoir deux types de patients au Québec? Ceux qui sont couverts par le gouvernement puis ceux qui ont des assurances privées. Et je me souviens à l'époque où Régent Hébert était ministre de la Santé, puis il m'avait dit, ça va être couvert par la carte soleil pour tout le monde. Puis, oups, finalement, après, c'était plus ça, là. Puis en plus, on disait non seulement ça ne sera pas couvert pour tout le monde, mais tu n'as pas le droit de charger, tu n'as pas le droit de payer pour un service. Fait qu'on a beau nous annoncer des services, on est ravis de ça, on veut juste connaître un léger détail, savoir combien... Évidemment, ça va coûter, puis qui va payer pour ça? L'autre dossier intéressant, on en a parlé hier, sur Hydro-Québec. J'ai reçu beaucoup de courriels de gens qui disent « c'est parfait, ça nous revient ». Je veux juste, et je sais qu'hier, on a eu un débat de chiffres avec le ministre là-dessus, qui me disait « M. Arcan, sur 20 ans, puis si vous prenez l'indice des prêts à la consommation, puis bon. » La vraie vie, là, c'est que dans les dernières années, on a eu des augmentations de tarifs de façon générale, autorisées par la Régie de l'énergie, inférieures à l'inflation. Et ça, là, c'est un fait. Là, ce qu'on nous dit, c'est que ça va être l'inflation. Alors donc, on peut présumer que les hausses seront supérieures à ce qu'elles auraient été si la demande avait été faite devant la Régie de l'énergie. Et en même temps, ça peut être l'inverse. On ne le sait pas. Fait que quand le ministre projette le fameux 1,5 milliard, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est une hypothèse. C'est rien de confirmé. Parce que dans les faits, il revient à chaque client d'Hydro-Québec résidentiel à peu près une soixantaine de dollars. Ce qui n'est pas là la fin du monde. Mais c'est vrai en même temps. C'est comme les frais de scolarité. Je me souviens... Quand le Parti québécois est arrivé, on dit « c'est extraordinaire, on va y aller avec l'inflation. » Plutôt que les hausses qui étaient proposées à l'époque. Puis quand tu remontes dans le temps, si on avait indexé tous les ans les frais de scolarité, peux-tu vous dire que les étudiants du Québec paieraient pas mal plus cher? Tu sais, l'indexation, là, tu sais, s'accoter sur le niveau d'inflation, c'est sûr que ça paraît bien, tu dis pas exagéré, mais quand tu fais le cumul de ça, ça peut représenter des augmentations importantes. 6h12, presque 13 minutes même. Marc, les points chauds. Merci beaucoup. Je reviens juste sur le dossier des pharmaciens, puis pour vous poser une question. Des fois, seul, avec votre conjoint, votre conjointe, mettons que vous allez là, pour un médicament dans une pharmacie, puis qu'il y a un geste, un honoraire professionnel, au-delà là, de remplir la prescription. Donc, prescription qui est faite par le pharmacien. Puis, mettons qu'on donne des chiffres, là. Que les honoraires peuvent varier 16 $, 20 $ pour l'acte posé. Puis là, vous calculez, mettons qu'il y a une co-assurance. Mettons que le patient doit payer 7 $ de sa poche. On paye pour les médicaments. Ah, Êtes-vous prêt à payer pour ça? En sachant que si vous allez voir un médecin, vous n'aurez pas à payer. Vous allez dire, ouais, mais là, avoir un rendez-vous chez le médecin, ça peut être long, ça peut être compliqué. Savez-vous quoi? Moi, on me raconte qu'il y a bien des gens qui revirent de bord. Qu'il y a bien des gens qui ne veulent pas payer le 7$, le 10$ qui est demandé, qui, quand on leur dit, ben voici, il y a des frais, ah non, merci, bonsoir. Je suis un peu surpris. Puis des gens qui préfèrent aller, donc, chercher un rendez-vous chez le médecin. Puis il y en a même qui vont aller carrément à la salle d'urgence, comme si c'était fait pour ça. Je vous lance la question pour fin de réflexion, comme on dit. On a le rapport de l'UPAC, qui est encore là, assez troublant, le comité de surveillance, qui nous dit, en gros, que l'UPAC, les enquêteurs, manquent de formation. Et que, d'abord, ils ont une série de problèmes, là, mais prenons la formation. Là, on a affaire à des crimes commis par des bandits à cravate. Et ça, ça veut dire de la fraude, ça veut dire des stratagèmes fiscaux, ça veut dire des fausses compagnies. Bref, il faut connaître les chiffres. Il faut être équipé pour faire face à des bandits là, qui sont des gens veston, mallette, mais qui sont des criminels. Et quand on regarde, finalement, la durée des enquêtes, tu as l'impression qu'on n'est peut-être pas assez équipé en spécialiste. Tu sais, c'est sûr que ça prend du talent d'enquêteur. C'est sûr que ça prend le PIF. C'est évident qu'il y a des experts aussi qui travaillent au sein de l'UPAC. Mais première conclusion, c'est évidemment le fait qu'on manque peut-être de compétences. C'est pour ça qu'il faut améliorer la formation. Deuxièmement, il faut faire attention avec les relations concernant les médias pour éviter les fuites, pour éviter justement que des informations confidentielles se retrouvent dans l'espace public et que ça nuise aux enquêtes. Et je rappelle qu'on est toujours dans l'attente de cette enquête qui a été demandée sur les fuites. Puis là, vous avez en parallèle l'affaire de Guy Ouellet. Vous avez évidemment les changements à l'UPAC. Vous avez le numéro 2, Boulanger, qui serait devenu collaborateur pour dénoncer ce qui se passait à l'époque au sein de l'UPAC. Alors, vous avez tout cet environnement-là. Et on a créé une unité anticorruption. On lui a donné le statut d'un corps de police. On a mis un comité de surveillance. Puis là, on s'aperçoit que finalement, c'est peut-être pas très, très efficace. Puis c'est ça qui fatigue les gens aussi. Tu dis, c'est tellement long, c'est tellement compliqué. Puis là, tu sais, hier, on parlait, ou avant-hier, des résultats des enquêtes internes du SPVM, il n'y a rien qui aboutit. À l'UPAC, les gros dossiers, il y en a eu qui ont abouti. Puis là, tu reviens toujours sur Machuré. T'attends. Tu sais pas. Tu es arrivé à une conclusion. Ça n'a pas l'air d'être le cas présentement. Bon, les députés vont siéger en fin de semaine pour faire passer les lois sur l'immigration et les signes religieux. Donc, ça va se faire sous bâillon. Alors, on va siéger jusqu'à dimanche. Pour terminer donc la session. Le premier ministre Legault va faire le point aujourd'hui. Et c'est sûr que dans le cas du projet de loi sur les signes religieux, les gens qui pensent que c'est fini, c'est réglé, puis on n'en parle plus, oubliez ça, là. C'est-à-dire que vous allez avoir, dès le retour, là, au mois de septembre, quand la loi va être passée, puis quand on va commencer à l'appliquer, des causes types qui vont ressurgir. Puis des gens qui vont essayer d'interpréter la loi. On a vu juste cette semaine l'épisode sur les alliances. Et puis il y a quelqu'un qui m'écrivait avec raison. Des alliances, ben oui, tu peux te marier à l'église, puis tu peux avoir des alliances. Puis tu peux te marier au palais de justice, puis avoir des alliances. Fait que tu sais, c'est quoi le signe religieux dans ça? Mais le gouvernement a glissé là-dessus, ça savait pas trop quoi répondre au début. Puis là, on va tenter d'interpréter les signes religieux. Parce qu'il n'y a pas juste... La grosseur n'est plus un facteur, il ne faut pas que ça soit ostentatoire. La présence d'un signe religieux peut être perçue comme étant une infraction à la loi. Puis vous avez également des organismes, commissions scolaires, entre autres, qui disent « ben non, on ne l'appliquera pas ». Alors, le débat sur les signes religieux est loin d'être terminé. Quelques nouvelles vite en terminant. Je vous rappelle que le festival du solstice a été comme, disons, photoshoppé et que c'est redevenu la fête nationale. Et on a vu hier à Québec, tout le monde était unanime en disant ça n'a aucun sens. Même la mairesse de Montréal est obligé de dire grouillez-vous, là, puis faites vos devoirs, puis réparez l'erreur. Mais je persiste à dire d'abord que c'était de bonne foi, puis que ça traduit justement auprès de certaines personnes un je m'en foutisme face à la question nationale. C'est ça que ça veut dire. C'est, tu veux pas nuire, mais tu sais, tu dis la fête nationale, c'est comme une fête comme une autre, dans le sens que, tu sais, puis on fait juste, on rajoute une journée ou deux, puis on en fait un festival, puis la fête est dans le festival. Puis... Et c'est toujours bien financé par le gouvernement du Québec en bonne partie. Et alors, il y a ça, évidemment, qu'on peut souligner. Et aussi, quand même assez intéressant, il faut suivre du coin de l'œil le dossier de Transat, parce que le groupe MAC a fait sa proposition, veut obtenir un prêt du gouvernement, donc participation financière. Et là, on verra, est-ce que c'est Air Canada, Transat, qui pourrait ramasser le tout. Et également, je termine avec ça, je reviens sur le dossier de la rougeole. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, on a plusieurs cas. Et la ville de New York, la communauté juive hassidique est particulièrement touchée. Et là, on a décidé d'éliminer l'exemption religieuse qui avait été accordée pour permettre aux gens de ne pas se faire vacciner. Et je rappelle, en fait, c'est pas moi qui le rappelle, là, mais ça a été redit par des leaders religieux. Il n'y a rien dans la religion juive qui interdit la vaccination. Il n'y a rien. Ah, ça peut être une peur, ça peut être évidemment un réflexe, mais il n'y a rien là-dedans. Et en parallèle, vous avez des artistes, des personnalités qui se prononcent soit contre la vaccination, soit contre l'obligation de faire vacciner, qui sont assez, disons, ambivalents. Il y a l'actrice Jessica Biel qui a tenu des propos sur les vaccins. Elle dit « Moi, je ne suis pas contre les vaccins. » Elle essaie de reculer un peu, mais j'ai de la difficulté à voir qu'on puisse comme ça l'imposer. Alors, des gens qui ont une notoriété. Et c'est un vrai débat actuellement aux États-Unis là, sur la vaccination puis tout ce que vous retrouvez de mensonger, évidemment, sur le web. Il est 6h21. Autoroute des Laurentides.